Heureux, toute l'équipe de la librairie Jean Calvin, de vous accueillir pour cette soirée consacrée aux prédicants des Cévennes. Et nous sommes heureux, évidemment, d'accueillir Jean-Paul Chabrol, qui est historien, ancien professeur d'histoire-géographie, que nous accueillons donc et qui va nous parler, nous entretenir ce soir d'une histoire méconnue, comme nous l'avions indiqué sur le titre, les prédicants des Cévennes, entre 1686 et 1700. Une période méconnue, c'est vrai qu'on s'intéresse plus souvent dans les Cévennes à la guerre des Camisards, qui a été, disons, largement explorée, même s'il reste encore à travailler certainement sur la question, sous d'autres angles, qu'elle a été abordée jusqu'à maintenant. Et Jean-Paul Chabrol, donc, s'est intéressé aussi à la guerre des Camisards, puisqu'il a publié aux éditions Alcide, je salue son éditeur qui est parmi nous, aux éditions Alcide Abraham Mazel, Le dernier Camisard. Il s'est intéressé aussi au prophète, Élie Marion Camisard aux semelles de vent. Et puis, pour terminer la série de Troyes, avant d'autres publications, François Vivin, prédicant du désert. Donc, Jean-Paul Chabrol, vous voyez, est un connaisseur de l'histoire régionale. Et ce soir, je trouvais intéressant d'aborder cette période qui se situe juste après, vous le savez, la révocation de l'édit de Nantes, avant, évidemment, la guerre des Cévennes, mais aussi avant, peut-être, ce qu'on appelle l'émergence véritable du mouvement prophétique. Et on peut se demander, mais bon, on aura l'occasion d'en discuter, je pense, après la conférence de Monsieur Chabrol, y a-t-il un lien de corrélation entre la disparition des pasteurs, ce mouvement des prédicants, et puis l'apparition soudaine des prophètes à la fin du XVIIe siècle. Voilà, donc je vous propose de passer cette soirée en deux temps. D'abord, nous écouterons Monsieur Chabrol nous faire sa conférence. Et puis ensuite, pour tous ceux qui le souhaitent, je propose que nous ayons un temps d'échange, de discussion, de questions, de remarques, si vous en avez, que ce soit assez libre entre nous. Et puis pour ceux qui le souhaitent après, je pense aussi que Jean-Paul Chabrol se rendra disponible pour vous mettre quelques autographes si vous voulez acquérir ses ouvrages. Voilà, merci d'être venu et donc je laisse la parole à Monsieur Chabrol.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je remercie Franck Belloir et la librairie Jean Calvin de m'avoir invité donc, pour traiter une période méconnue, donc les prédicants des Cévennes, 1685-1700. En introduction, je voudrais développer trois points. D'abord, comme l'a rappelé M. Belloir, la période des prédicants, qui s'étend donc de 1685 à 1701 environ, est bien moins connue du grand public que la célébrissime guerre des Camisards. Et significativement, cette période a laissé moins de traces dans la tradition orale cévenole, probablement à cause du traumatisme que la guerre des Camisards a provoqué dans la conscience collective des cévenoles. En effet, c'est un choc, c'est un événement extrêmement violent, qui a en partie effacé ou occulté la mémoire de l'époque précédente que je vais traiter ce soir. Quoi qu'il en soit, cette période pré-camisarde est cruciale pour comprendre la genèse de la résistance protestante face à la violence crue et sans retenue de l'État monarchique. Cette période s'inscrit dans de nombreux multiples contextes qui ont retenti les uns sur les autres, et que par souci de clarté, je serai obligé de distinguer séparément. Quoi qu'il en soit, ils témoignent, ces contextes, des liens de plus en plus étroits entre les Cévennes et les pays protestants du refuge, et ils permettent encore de comprendre les cadres mentaux qui ont guidé l'action de ces hommes singuliers, voire exceptionnels, que l'on nomme prédicants. Voilà pour le premier point. Cette période soulève toute une série de problématiques absolument passionnantes. Elles sont à la fois théologiques et religieuses, mais également politiques. Elles portent sur le rôle de la violence, sur le loyalisme politique, sur le patriotisme, je mets des guillemets à ce mot, sur le sacerdoce universel, sur la vocation des pasteurs et bien d'autres questions. Et elle pose, in fine, la question du déclenchement de la guerre des Cévennes, bien qu'elle n'ait pas été prévue ni même envisagée par les prédicants, mais malgré tout, pourquoi a-t-elle éclaté à l'automne 1702 et non pas une dizaine d'années plus tôt, à l'époque même des prédicants? Ces derniers, comme l'a rappelé M. Belloir, ont-ils fait le lit du prophétisme qui, partant, a ouvert la voie à la violence camisarde? Voilà quelques questions, parmi beaucoup d'autres, qui ouvrent des plages de sens particulièrement intéressantes, et pour les historiens, et aussi pour nous, citoyens, confrontés en ce début du XXIe siècle à l'obstinée permanence du fait religieux en France et à travers le monde. Troisième point de mon introduction, ce soir je ne vais pas me livrer à une histoire érudite, c'est-à-dire événementielle et chronologique des prédicants. L'ouvrage phare de Charles Bost, 1912, donc je vous montre cet ouvrage, c'est un ouvrage capital, et les travaux à venir de mon ami Pierre Roland sur la géographie prédicante ont apporté et apporteront des connaissances solides sur le plan factuel. Ce soir, je vais plutôt mettre l'accent sur ces interrogations que je viens de mentionner, des interrogations qui nous interpellent et qui interpellent aussi, ça c'est important pour moi, nos consciences. Je vais aussi exposer brièvement les débats auxquels les prédicants ont été partie prenante pour faire comprendre dans quel climat religieux et quel climat culturel ils ont déployé leur ministère avec un courage véritablement exceptionnel, un courage qui force encore le respect, quelles que soient ses convictions religieuses ou pas. Premier point de mon exposé, qu'est-ce qu'un prédicant? Quels ont été les principaux prédicants? Quelles sont leurs activités? Quand disparaissent-ils? Prédicant d'abord. Le mot est utilisé par les autorités provinciales, que l'on appelle à l'époque les puissances, pour désigner des prédicateurs itinérants qui, depuis la fin de l'année 1685, bravent les interdictions royales pour maintenir le culte réformé. Ces laïcs, eux, ne s'appellent pas prédicants, ils se proclament ministres ou ils se déclarent proposants, c'est-à-dire étudiants en théologie. Quelle que soit leur origine sociale et quel que soit leur niveau d'instruction, tous affirment la volonté d'être reconnus comme étant les successeurs et les héritiers des pasteurs exilés en masse à l'automne 1685. Donc, ces prédicants s'inscrivent délibérément, ils le revendiquent ainsi, dans une continuité avec le passé d'avant 1685. Combien sont-ils ? On en dénombre environ 90, dont une poignée de femmes, mais l'histoire de ces prédicantes est encore très mal connue. Ces prédicants ont cohabité avec les prophètes, dont le nombre augmente régulièrement à partir de 1688. Jusqu'en 1701, le phénomène prophétique est encore marginal en Cévennes, au sens large, sauf en Vivarais, où son ampleur est antérieure à cette date. Quoi qu'il en soit, parmi ces prédicants, il y a quelques figures de proue qui dominent toutes les autres. François Vivin, dont j'ai retracé l'histoire, Claude Brousson, qui a été l'ami de François Vivin et qui a été consacré par lui sur le Bougès comme prédicant, Jean Roman, qui est un personnage particulièrement intéressant, qui est un prédicant très pittoresque, souvent déguisé en colporteur, et il avait le surnom, on l'appelait le marchand doux ou le petit paquetier. Citons encore Pierre Papus, qui a été un ami proche de François Vivin, les trois frères Plan, David Quette, et on pourrait mentionner d'autres personnages. Alors, à cause des lacunes des sources, certains prédicants dans l'œuvre de Charles Bost se résument à un nom, à une trace extrêmement fugitive. D'autres n'ont exercé leur apostolat que dans un temps extrêmement limité, et donc ils sont beaucoup moins connus que François Vivin ou Claude Brousson. Quelle est l'origine géographique de ces prédicants? Le plus souvent, ils sont natifs des Basses Cévennes. On note surtout une assez forte proportion de prédicants originaires de la Salindrinque, c'est-à-dire le pays de La Salle. Il semble en effet que cette région ait été l'épicentre de la première résistance protestante après 1685. Les prédicants d'ailleurs sont très souvent venus à La Salle ou dans les environs. Ils bénéficiaient de très fortes complicités dans cette petite ville. Les assemblées religieuses les plus importantes, celles qui dépassaient plus de 500 personnes, se sont fréquemment déroulées à proximité de ce bourg. Anduze, que l'on surnommait la Genève des Cévennes, a été aussi un autre point d'appui important pour les prédicants. Et d'ailleurs, François Vivin et Claude Brousson ont souvent rayonné autour d'Anduze. Quelle est l'origine sociale des prédicants? Elle est assez contrastée. On trouve parmi eux quelques illettrés, probablement des paysans. Et pour beaucoup, je parle là des croyants, c'est le signe de la providence divine. Et en effet, dans le droit fil du message évangélique, sont appelés pour apporter la parole de Dieu les plus faibles. Mais ces illettrés sont manifestement une minorité. Pour le reste, en schématisant, on peut distinguer deux groupes sociaux. Tout d'abord, une nette prédominance d'artisans, soit urbains, soit ruraux, notamment des artisans du textile et essentiellement consacrés au travail de la laine. On a un second groupe, non négligeable, d'ex-membres des consistoires qui ont disparu en 1685 et qui étaient anciens, chantres, lecteurs, diacres et surtout régents des écoles. Les régents étaient des maîtres d'école et, vous le savez, les réformés attachaient une très grande importance à ce que nous appellerions aujourd'hui l'école avec un E majuscule et l'éducation avec un E majuscule. Alors les régents, donc, dispensent les savoirs élémentaires, la lecture, l'écriture, le calcul, et ils enseignent le catéchisme. Pour expliquer un peu ces mots savants, les anciens étaient les membres élus ou cooptés des consistoires, et les anciens avaient pour fonction de veiller à la stricte application de la discipline et des décisions qui étaient prises pendant les synodes. Les chantres, généralement, remplaçaient les pasteurs ou les ministres lorsqu'ils étaient absents. Ils sont chargés, généralement, lorsque le pasteur n'est pas là, de diriger le culte. Ils entonnent et ils soutiennent également le chant des psaumes. Les lecteurs, pas la peine d'expliquer, participent au culte dominical, ils secondent le ministre. Et les régents, très souvent, cumulent parfois toutes ces fonctions ecclésiastiques et parfois ils ajoutent également celles de diacres. Alors les diacres étaient des anciens qui étaient chargés d'assister les malades ou les pauvres. En conclusion, ces hommes ont une bonne ou une assez bonne culture religieuse. Ils sont tous bilingues, c'est-à-dire qu'ils parlent aussi bien l'occitan que le français. Et surtout, ils sont tous bien intégrés à la société locale et on peut dire que les prédicants ne sont donc pas des marginaux, ils ne vivent pas en marge de la société. Quelles sont leurs activités? Les prédicants, donc je l'ai dit, ce sont des prédicateurs, les prédicants se sont donnés pour mission, et le terme est important, il est utilisé par eux, de maintenir la religion réformée. Pour eux, il ne s'agit pas de résister. Bon, nous utilisons par analogie avec la période de la Seconde Guerre mondiale le terme de résistance, mais c'est un mot qu'ils n'utilisent pas. Pour eux, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de persévérer dans la foi à travers les épreuves, à travers ce que l'on appelle à l'époque les malheurs du temps. Tous sont partisans du maintien du culte public, parce que pour eux, le culte public est le seul capable, à travers ces malheurs du temps, à souder les communautés, malgré et en dépit des interdictions royales. Alors, aux yeux des puissances, c'est-à-dire aux yeux du pouvoir régional, civil, religieux ou militaire, les prédicants sont des hors-la-loi, c'est un terme que je vais souvent utiliser, ce sont des rebelles, et donc ce sont de très mauvais sujets du roi. Pour maintenir donc la religion réformée, Il multiplie les assemblées clandestines. Alors, ces assemblées sont souvent des assemblées nocturnes pour prêcher l'évangile, afin que les protestants, les réformés, persistent donc dans la foi de leurs ancêtres. Leurs prêches sont très longs, et ça nous étonne. Aujourd'hui, ça dure parfois de 2 à 3 heures. Je ne sais pas si aujourd'hui on accepterait un des cultes aussi long. En tout cas, ça commence toujours par une prière, la lecture de chapitres de la Bible. Quand c'est possible, les prédicants se livrent à une explication du texte avec son application. Et le cœur du prêche, c'est l'exhortation, le sermon, c'est-à-dire pour ces gens-là, pour ces croyants, c'est la parole inspirée de Dieu pour son Église, c'est-à-dire pour l'Assemblée, ces gens, ces fidèles qui les écoutent. Et n'oublions pas que le protestantisme est avant tout, avant même, on dit oui, c'est la religion du livre et de la Bible, non, c'est avant tout une religion de la parole. Et donc les prédicants sont avant tout des prédicateurs. Et François Vivin, il a très peu écrit de sermons, il utilisait les sermons de Brousson et des autres, et c'était véritablement un homme de parole, comme d'ailleurs tous ses confrères. La prédication ou le sermon, donc, pour eux, font entendre, en cette période dramatique, la parole de Dieu, et le tout est ponctué du chant des psaumes. Les prédicants tirent leur discours de versets, soit tirés du Nouveau Testament, dont l'Apocalypse, soit pris dans l'Ancien Testament. Alors, on a fait une étude, surtout Charles Bost, essentiellement les psaumes, les prophètes également. La plupart des sermons utilisés par les prédicants ont été composés par Claude Brousson, et les autres étaient empruntés à des pasteurs du refuge, donc les sermons traversaient clandestinement la frontière et arrivaient ici en Cévennes, et ils étaient recopiés ou appris par eux. Que disent les prédicants dans leurs sermons ou leurs exhortations? Les prédicants invitent surtout les fidèles à la repentance, à sortir de Babylone, au sens de ne pas aller à l'église qui est jugée idolâtre. Dans le même temps, ils annoncent ce qu'ils nomment la délivrance avec un D majuscule. Pour eux, la délivrance est imminente, elle est proche. Ça veut dire la fin de la persécution. Et il laisse entendre, en effet, que les tourments des protestants, leur malheur, prendront fin très prochainement. Les prédicants se présentent également comme des médecins, c'est le terme qu'ils utilisent, notamment un prédicant fascinant qui s'appelle Antoine Rocher, qui est un des prédicants les plus émouvants. Et en effet, il dit qu'il est un médecin de l'âme, et très souvent, tous disent qu'ils sont des consolateurs du peuple cévenol abattu. Et pour les prédicants, en effet, ce peuple cévenol est, selon eux, l'élu et l'aimé de Dieu. Comment vivent les prédicants en dehors de leurs activités religieuses? Ils vivent à 2 ou 3, ils forment donc une fraternité très pieuse, souvent itinérante pour 2 raisons. D'abord pour des raisons religieuses, il faut multiplier les assemblées pour ce qu'ils appellent les affamés de la parole de Dieu, mais également par souci de sécurité, puisqu'ils sont sans cesse pourchassés par les troupes royales ou les milices. Ils sont souvent, donc, je l'ai dit, 2 ou 3, entourés de quelques fidèles, protégés souvent par une escorte armée, des gardes du corps en quelque sorte, et c'est notamment le cas de François Vivin, qui se déplaçait toujours avec ses armes et une toute petite escorte. Les prédicants sont donc très pieux, sont également très dévots, ils prient 3 fois par jour, ils lisent les Écritures, ils recopient ou ils apprennent par cœur des sermons, donc je l'ai dit, fournis par Brousson ou venus du refuge. Quelques femmes les accompagnent. De tous les prédicants, c'est Roman qui paraît avoir été le plus apprécié des femmes. Il avait certainement un charisme particulier. Mais jamais ces femmes n'ont été les maîtresses des prédicants, contrairement d'ailleurs aux ragots et aux fantasmes, notamment des catholiques, ou encore de quelques pasteurs bien étroits et obtus du refuge qui imaginaient toutes sortes de turpitudes à cause de la présence de ces femmes. Mais là encore, la complicité des femmes semble l'emporter sur celle des hommes, et notamment des femmes du peuple, bien que l'on rencontre ici et là des femmes appartenant à la petite noblesse, comme les demoiselles de Rouville, qui ont très souvent abrité François Vivin ou Claude Brousson, ou encore les demoiselles de Cornélie, que l'on va retrouver un peu plus tard, puisqu'elles étaient très proches de Pierre Laporte, dit Roland. Alors ces femmes, ce sont ce qu'on pourrait appeler des vivandières. Elles sont là pour ravitailler, faire la cuisine des prédicants. Quand les prédicants disparaissent-ils ? Tous les prédicants, dès le début, ont été donc pourchassés par le pouvoir régional dès la fin de l'année 1685. Donc, je l'ai dit, ce sont des hors-la-loi qui enfreignent la législation royale et donc les milices et les troupes qui sont aidées par des indicateurs, aussi bien catholiques que protestants, s'efforcent bien évidemment de mettre la main sur ces prédicants. La plupart donc disparaissent, mais je mets le mot entre guillemets, dans le courant de l'année 1701, mais disons plus exactement, ils n'ont pas totalement disparu, ils se sont évanouis et on va les retrouver, ces prédicants, dans les rangs des camisards. Car d'une certaine façon, les chefs camisards, grands ou petits, ont été, en quelque sorte, des prédicants à leur façon. Néanmoins, l'intendance du Languedoc et le gouvernement militaire ont porté des coups extrêmement durs contre les prédicants et tout au long de cette période, une dizaine de prédicants, et non des moindres, donc François Vivin, Claude Brousson, etc., ont été exécutés ou, comme François Vivin, ils ont été tués, les armes à la main. D'autres, par contre, comme Jean Roman, se sont exilés. Quoi qu'il en soit, M. Belloir le disait tout à l'heure, la fin de la période prédicante correspond au développement du mouvement prophétique, comme si la disparition des prédicants avait laissé le champ libre aux prophètes, comme si finalement les prédicants avaient été une sorte de soupape de sécurité. Et une fois la soupape disparue, bien évidemment, c'est l'explosion du prophétisme. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ils ont souvent côtoyé les prophètes, surtout en Vivarais. Claude Brousson, par exemple, a rencontré plusieurs prophètes dans la région de Vernoux, et j'allais dire que la cohabitation avait été bonne. Par leur prise de parole, je me pose cette question, les prophètes, eux, par centaines, cette fois, est-ce qu'ils n'ont pas pris le relais des prédicants ? Ne sont-ils pas, eux aussi, des prédicants d'un genre nouveau ? En effet, parce que à travers les prophètes, la parole de Dieu, elle est désormais médiatisée non plus seulement par la parole, mais par la gestuelle des prophètes, une gestuelle corporelle qui étonne les contemporains et qui nous étonne encore aujourd'hui. C'est une véritable énigme historique. Dans leur corps, je dis dans le corps des prophètes, dans leur corps, donc la révolte et l'insoumission, et à travers leur corps, ce que les mots ne peuvent plus dire. Voilà donc les prédicants donc, qui disparaissent, vous voyez, dans le courant de l'année 1700. Deuxième grande partie de mon exposé, dans quel contexte les prédicants ont-ils exercé leur action ? Le premier contexte, c'est le contexte national de ce que l'on appelle en histoire un événement traumatisme, c'est la révocation de l'édit de Nantes en 1685. La violence de cet événement est à distance, vu d'aujourd'hui, en 2009, absolument inimaginable. On a du mal aujourd'hui à appréhender l'ampleur du traumatisme qu'il a provoqué, car on ne comprend pas ou on ne comprend plus aujourd'hui combien la religion imprégnait les comportements et imprégnait également les identités à cette époque. Quelques points qu'il faut rappeler. Tout d'abord, les temples. Les temples sont rasés, mais au sens propre du terme, jusqu'à leur fondation, on écrivait à l'époque dans les jugements que les temples devaient être rasés pierre sur pierre, disait-on. Le symbole traduit parfaitement la volonté, et je pèse mes mots, d'éradiquer le protestantisme. Alors lui, Louis XIV n'a pas utilisé le mot d'éradication. Lui, Louis XIV voulait réduire le protestantisme, il voulait réduire les protestants. Par contre, les démolisseurs, eux, veulent du passé réformé faire table rase. La disparition dans le paysage quotidien du temple bouleverse les communautés protestantes. L'érection des temples avait été souvent une œuvre de longue haleine. Ce fut parfois un combat quand les paroisses étaient confessionnellement divisées. Il fallait imposer le temple face à l'église, et puis les temples avaient entraîné de très lourds sacrifices financiers pour ces communautés cévenoles qui étaient souvent des communautés extrêmement pauvres. Le temple, qu'il soit grand ou modeste, qu'il soit important ou discret, était un marqueur fort de l'identité huguenote. Le temple, c'est un peu la borne miliaire de cette longue marche qui avait conduit les Cévennes à la réforme. C'est le témoin de la présence réformée et surtout dans les paroisses bigarrées, c'est-à-dire mélangées, catholiques et protestants, sur le plan confessionnel. Même si pour les protestants, et ça c'est important, Dieu se révèle où et quand il veut, la disparition des temples provoque malgré tout la perte de repères existentiels, à un point inimaginable pour nous, et avec le temple aussi, c'est anecdotique, mais c'était important, c'est aussi la cloche qui disparaît dans le paysage sonore du quotidien, et ça, c'est encore plus important, c'est ce quotidien qui est froissé, qui est agressé, qui est blessé par la politique anti-protestante de Louis le Grand, c'est-à-dire de Louis XIV. Conséquence également de la révocation de l'édit de Nantes, la religion protestante est proscrite, je ne vais pas m'étendre, mais vous le savez, la possession des psaumes et des autres livres pieux est interdite, tout comme la Bible. Celui qui n'abjure pas, qui demeure donc protestant, qui est donc un opiniâtre, n'est plus sujet du roi, c'est important, et c'est donc une nouvelle perte de l'identité protestante, de l'identité entre guillemets national, mais j'y reviendrai. Il est de fait hors la loi, celui en effet qui abjure, et par nécessité, ces hommes et ces femmes deviennent des fugitifs pour éviter la prison. Dès la fin de 1686, ils sont particulièrement nombreux et nombreuses à errer dans les bois, dans les garrigues. Parfois, ce sont des familles entières qui sont obligées de se réfugier dans les bois. Et donc, ils survivent grâce à la charité des religionnaires compatissants. Beaucoup vivent déjà dans des huttes au sein des massifs forestiers et certains vivent déjà dans des grottes. Troisième point, les pasteurs qui refusent d'abjurer ont 15 jours pour quitter la France. C'est un drame pour les pasteurs, mais c'est également un drame pour les fidèles. Ces ministres étaient très souvent, même quasi-totalité, c'était des notables ou appartenaient à des familles de notables. Leur départ précipité laisse d'abord sans voix les paroissiens. Ils comprennent bien, en effet, que la vie des ministres, des pasteurs est en danger, mais très vite, ici et là, leur départ est questionné, puis il est critiqué. Très vite aussi, la société cévenole, mais aussi le refuge, c'est-à-dire les pays protestants, se divise sur l'attitude des pasteurs. Ne devaient-ils pas, eux, qui étaient les conducteurs d'église, c'est le mot que l'on donnait à ces pasteurs, ne devaient-ils pas affronter la répression au risque du martyre ? Alors, j'y reviendrai un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, avec leur départ s'effondrent les institutions calvinistes qui encadraient étroitement la vie des populations et la disparition, en effet, de l'appareil calviniste provoque de très forts clivages dans la société cévenole. Le dernier point, il est très largement connu. Vous savez que, avant même la révocation, avec l'arrivée des dragons, cela a entraîné une apostasie générale, c'est-à-dire une abjuration générale, et c'est donc le début de la catholicisation forcée de la population. Les naissés, donc les nouveaux convertis, enfants compris, sont dans l'obligation d'assister à la messe, les enfants d'aller aux petites écoles qui étaient tenues par les curés et par les missionnaires. Le dernier point, qui est archi connu, c'est le déchaînement d'une violence absolument sans retenue, impressionnante. Les premiers refus de cette catholicisation beauté, puisque les dragons, on les appelait les missionnaires beauté, provoquent donc le déchaînement d'une répression particulièrement disproportionnée et d'une extrême rigueur. Et il suffit de parcourir les archives de l'intendance à Montpellier pour prendre conscience de cette violence absolument sans nom. Bon, elle est trop connue pour que je la détaille, mais elle va durablement marquer les esprits et les comportements. Quel est le contexte psychologique dans lequel les prédicants vont déployer leur ministère ou leur apostolat ? Ce contexte psychologique, je l'ai intitulé « Les Cévennes, un pays enchanté ». Alors le mot « enchanté » est à mettre entre guillemets. Premier point, le désert comme épreuve et le désert comme preuve. J'explique. Les prédicants, mais également les plus pieux des Cévenols, sont de grands lecteurs de l'Ancien Testament, et les protestants donc relient leur présent et leur vécu à l'exode du peuple d'Israël, surtout la sortie d'Égypte, et surtout sa longue errance dans le Sinaï. Et le désert Cévenol, dans lequel on trouve ces fugitifs dont j'ai parlé, soit des individus, soit des familles, ces forêts, ces bois, ces garrigues, devient la métaphore du désert, à la fois du désert de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est-à-dire un lieu d'épreuve au pluriel, un lieu de retraite, un lieu de secret, un lieu de mise à l'épreuve. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire les admirables sermons de Claude Brousson et notamment la fameuse manne mystique. Cette identification à Israël, cette identification aux Hébreux a traversé toute la période qui s'étend donc des années 1680 jusqu'à la fin de la guerre des Camisards, voire même au-delà. Le désert comme épreuve, vous l'avez compris à cause des malheurs du temps, mais également le désert comme preuve, parce qu'à partir du moment où on s'identifie avec Israël, eh bien on comprend que le désert Cévenol, devient lui aussi, comme dans le Sinaï, la preuve de l'élection de ce peuple Cévenol particulièrement éprouvé et persécuté. C'est dans ces conditions que se développe donc ce que j'ai appelé cet enchantement, entre guillemets, ça fait appel à l'imaginaire, au conte, se développe ce que l'on appelle le merveilleux Cévenol. Dès le lendemain de la révocation, dès l'automne 1685, se produisent des phénomènes extraordinaires, surnaturels, alors les mauvaises langues ou les esprits étroits parlent d'hallucination, pourquoi pas. On est déjà dans un jugement de valeur, ce que Claude Brousson appelle les merveilles, autrement dit, dans un discours catholique, on dirait des miracles. Qu'est-ce qu'on entend en Cévennes et qu'est-ce qu'on entend précisément? C'est la première paroisse qui signale, ou dans laquelle on signale ces phénomènes d'enchantement, ce merveilleux. C'est la paroisse de Pérols et c'est la paroisse dans laquelle François Vivin a été régent d'école. Alors, on entend, les témoins l'affirment, en tout cas ils l'écrivent, ils le disent, on entend la nuit, voire même le jour, on entend des psaumes, on voit des anges, on entend des roulements de tambours, etc. Et de très nombreux témoins attestent de ces phénomènes, qui ne sont d'ailleurs pas propres aux Cévennes, puisqu'on les retrouve à la même époque dans le Béarn et dans les mêmes conditions de persécution. Les prédicants, les prophètes camisards attesteront tous de la réalité de ces phénomènes qui semblent disparaître après 1686, mais au hasard de nos sources, ces phénomènes semblent perdurer, voire même peuvent se retrouver jusque pendant la guerre des camisards. Et notamment, j'ai dernièrement, en travaillant sur le François Vivin aux archives, j'ai trouvé fréquemment des témoins qui sont interrogés et qui signale lors des assemblées religieuses la présence d'anges. Alors, certains pensent que, ou disent que ce sont des anges qui apparaissent comme ça dans le ciel, mais curieusement, quelques témoins disent qu'il y a des femmes, peut-être des hommes, qui sont revêtus d'une chemise blanche et qui semblent, entre guillemets, jouer le rôle des anges. Voilà donc le contexte, vous voyez, dans lequel ces prédicants multiplient leurs assemblées. Ça, c'est pour le contexte national et régional. Voyons maintenant le contexte international. Alors, le contexte international, il est marqué par deux événements, la glorieuse révolution en Angleterre de 1688 et la guerre de la Ligue d'Augsbourg entre 1686 et 1697. Les Cévennes, au sens très large du terme, malgré la rugosité de leur relief, malgré leur relatif isolement, ne sont pas un isolat géographique. Avant même la réforme, et plus encore grâce à la réforme, cette région est largement ouverte au courant d'idées qui viennent de l'étranger et notamment des pays protestants européens. Dans ce contexte international, qui est marqué donc par la guerre, qui oppose donc la plupart des pays européens à la France de Louis XIV, les Cévennes vont subir donc l'influence des idées et des débats qui agitent le monde protestant. De ce contexte international, un double climat. Tout d'abord, se développe en Cévennes, dès 1685, mais surtout à partir de 1686, ce que j'appelle une attente messianique à tonalité apocalyptique. Je vais expliquer ces termes un peu simples. Cette attente, elle est le produit de l'enchevêtrement d'idées religieuses très diverses. Elle est surtout la conséquence de l'action du pasteur réfugié à Rotterdam, Pierre Jurieu, que l'on appelle le prophète de Rotterdam. Par ses lettres pastorales extrêmement nombreuses à partir de 1685, et puis surtout par la publication de son grand ouvrage qui s'appelle « L'accomplissement des prophéties » et qui date de 1686, eh bien l'injurieux Jurieu, c'est le nom que lui donnaient ses ennemis, a nourri cette attente millénariste et messianique. Millénariste pourquoi ? Et messianique, je vais expliquer également ce terme. Millénariste parce que Jurieu, Pierre Jurieu, mais il n'est pas le seul, mais il est en pointe, laisse entendre que le monde est à la veille du retour du Christ sur terre pour un règne de bonheur de 1000 ans, c'est ce qu'on appelle en latin le millénium. C'est une idée qui est reprise des apocalypses de l'Ancien et du Nouveau Testament, et surtout de l'Apocalypse de Jean, et c'est une idée relativement ancienne, mais qui a été réactivée par un néo-cistercien qui s'appelait Joachim de Flore à la fin du XIIe siècle. Alors le pasteur, donc Jurieu, annonçait aux réformés la fin prochaine de leur tourment. Il fixait pour l'année 1689, et vous allez retenir cette date, elle est importante, la délivrance de l'Église et la défaite de la bête. Par la bête, on entendait donc l'Église catholique romaine. Et il renforce ainsi l'espérance d'une intervention rapide et miraculeuse de Dieu, et on peut dire en effet que c'est une constante de la mentalité des chrétiens persécutés, à la fois une constante de nature religieuse, mais également de nature anthropologique. En effet, lorsque les chrétiens étaient persécutés, et on le voit de l'Antiquité à nos jours, eh bien ces chrétiens, qui étaient nourris très souvent de l'Ancien Testament, mais également du Nouveau, eh bien ces chrétiens, bien évidemment, espéraient une libération, ils espéraient une intervention pour sauver le peuple élu. Et donc cette libération s'inscrit, vous voyez, c'est anticipé bien évidemment, cette libération s'inscrit dans cette perspective apocalyptique, un retournement de situation qui ouvrirait donc sur ces fameux 1000 ans de bonheur. J'ai dit donc millénariste et je dis maintenant messianique. Pourquoi ? Dans le contexte donc dramatique et douloureux de la révocation, les protestants persécutés rêvent donc d'un nouveau Messie qui les libérerait donc de l'oppression ou de l'esclavage, c'est le terme qu'ils utilisent. Et cette référence, elle est constante, et notamment ils font sans arrêt référence à l'esclavage en Égypte ou encore à l'esclavage à Babylone, toujours en référence avec le peuple d'Israël. Et en 1688, ce nouveau Messie, il porte un nom, il s'incarne donc dans la figure et dans l'action de Guillaume d'Orange, qui va devenir Guillaume III d'Angleterre, à la suite d'un coup d'État, qui est rebaptisé par les Anglais la Glorieuse Révolution, mais pour les protestants, à la fois cévenols de France et les protestants européens, eh bien la Glorieuse Révolution, ce coup d'État, apparaît comme une revanche sur la honteuse révocation de Louis XIV. En résumé, ces croyances retentissent donc sur le comportement des protestants cévenols où s'interpénètrent, vous l'avez compris, des événements politiques nationaux et internationaux et une crise religieuse qui est également, ça j'y insiste, une crise culturelle à l'échelle française mais également à l'échelle européenne. Pour faire bref, on peut considérer cette période, donc la fin du XVIIe siècle, qui a été marqué par le choc de la réforme et par les guerres de religion du XVIe, on peut penser, estimer, que, en effet, on est à la fin d'un monde. Et, en effet, nous sommes à la veille du basculement de l'Europe occidentale dans ce que l'on va appeler, ou dans ce que l'on appelle, la modernité des Lumières. Ce que l'académicien Paul Hazard, aujourd'hui décédé, avait appelé en 1935, dans un très grand livre, la crise de la conscience européenne, et c'est au cœur même de cette crise donc, que s'est déployée l'action des prédicants, puis celle des prophètes, et enfin celle des camisards. Dernière partie, beaucoup plus réflexive, eh bien, quelles sont les principales questions qui se sont posées aux prédicants? Et vous verrez que les questions qu'ils se sont posées, eh bien, sont des questions qui sont peut-être encore des questions d'actualité. Première question qu'ils se sont posées, c'est la légitimité de leur action, puisque ces prédicants étaient des laïcs, ce n'étaient pas des clercs, ils n'étaient pas pasteurs à l'origine, et donc ils disaient qu'ils étaient, ou on les qualifiait ainsi au refuge, qu'ils étaient donc des ministres extraordinaires. Donc, quelle est la légitimité des ministres extraordinaires? C'est une question qu'ils ont posée et une question qui faisait débat et une question qui fait peut-être débat dans le monde protestant extrêmement divers aujourd'hui. Je l'ai dit plus haut, le choc de l'exil des pasteurs a provoqué un très rude débat, une polémique au refuge qui s'est poursuivie jusqu'à la restauration de l'église du désert par Antoine Court, voire même au-delà. Et en effet, ce redoutable départ, cet exil massif, a soulevé donc la redoutable question de la défaillance des ministres ordinaires. Elle a nourri, je l'ai dit, de violentes disputes théologiques dans le refuge, et j'estime, c'est mon point de vue, que l'historiographie protestante d'hier à aujourd'hui s'empresse à passer trop vite sur cet épisode si peu glorieux. On peut certes trouver beaucoup de justifications au départ des pasteurs. Le délai imparti était très bref, ils avaient 15 jours, j'allais dire, pour plier bagages, vendre leurs biens et s'exiler. S'ils n'abjuraient pas, ils étaient menacés et donc ils pouvaient être condamnés à mort, etc. Cependant, je vous pose une question, il est quand même pour le moins étrange que très peu de pasteurs soient retournés en France à l'instar de Claude Brousson, et on les compte sur les doigts d'une main, les pasteurs qui se sont exilés et qui sont revenus en France. Mais bon, ceci est une autre histoire, une histoire d'ailleurs à faire, et peut-être même une histoire à écrire. Quoi qu'il en soit, au refuge et dans le confort du refuge, quand on est très loin, bien évidemment, et que l'on n'est pas persécuté, comme en France ou en Cévennes, plusieurs pasteurs exilés, ou pas, ont soulevé la question de la vocation des prédicants. Donc, je le répète, ce sont des laïcs qui n'ont pas fait d'études théologiques, qui n'avaient pas reçu l'imposition des mains et qui n'avaient pas non plus reçu l'approbation d'un synode. Alors, en soulevant cette question, au refuge surtout, eh bien, certains jetaient la suspicion sur la légitimité du ministère ou de l'apostolat des prédicants. Et en effet, personne, théoriquement, ne peut s'autoproclamer pasteur, du moins en théorie. Inversement, je dis inversement, les prédicants qui n'ont demandé d'ailleurs l'autorisation de personne pour prêcher, pour devenir des prédicateurs, eh bien, ils ont accentué ce que j'appelle la décléricalisation de la société. Sans le vouloir, ils décrédibilisent un corps pastoral que Claude Brousson, j'emprunte à Claude Brousson ces mots très, très durs, très méchants, un corps pastoral devenu trop mondain. Sans le vouloir également, il participe à la démocratisation de la vie religieuse, et sans le vouloir également, il renforce l'idée théologique, qui est très protestante, que l'Église est seconde en tant qu'institution, et que, a contrario, eh bien, en proclamant cela, à leur corps défendant, ils œuvrent dans le sens de ce qu'on appelle l'invisibilité de l'Église, c'est-à-dire que l'Église est avant tout, et j'y ai insisté quand j'ai parlé de la parole de Dieu, l'Église est avant tout pour eux un événement de la parole de Dieu avant même d'être une institution humaine. On pourrait aller plus loin d'un point de vue philosophique, puisque j'ai parlé de crise de la conscience européenne. Sans en avoir vraiment conscience, les prédicants participent également à ce que l'on appelle l'autonomisation croissante du sujet ou de la personne, et de ce point de vue-là, sans le savoir même, ils œuvrent dans le processus de la modernité occidentale qui va se mettre en place avec les Lumières. Adossé à cette question de la légitimité des ministres extraordinaires, la question du sacerdoce universel. C'est une question théologique, elle est adossée à la précédente, et je rappelle que depuis Luther, tous les croyants sont théoriquement prêtres par le baptême. C'est une remise en cause des hiérarchies traditionnelles, et c'est la pente qui conduit une nouvelle fois à la démocratie, je mets le mot quand même entre guillemets, pas la démocratie politique au sens actuel du terme. C'est implicitement au nom du sacerdoce universel, c'est-à-dire tout le monde est prêtre par le baptême, c'est au nom donc de ce concept, de ce sacerdoce universel, que les prédicants se sont dit ou se sont autoproclamés ministres, c'est-à-dire serviteurs de la parole de Dieu. Les pasteurs, je l'ai dit, appartenaient à la notabilité. C'était des notables, c'était ce qu'on appelait parfois de façon méprisante des chapeaux noirs, c'était des messieurs. Eh bien, les prédicants, par leur origine sociale, rapprochent encore plus la parole de Dieu du peuple dont ils étaient issus. Et la guerre des Camisards a porté à son paroxysme ce glissement social à travers les cultes qui étaient organisés par les prophètes, puisque dans ces cultes, un certain nombre de participants n'hésitaient pas à prendre la parole, chose qui était absolument inimaginable avant 1685. Personne n'aurait osé, dans un temple, aurait osé prophétiser ou prendre la parole. Là, on est dans des questions théologiques. Je passe rapidement et on va aborder cette fois-ci des questions qui nous interpellent encore plus directement, qui sont des questions à la fois politico-religieuses pour l'époque. La question qu'ont posé les prédicants, c'est la question de la violence pour défendre sa foi. C'est une question politique, c'est une question religieuse, c'est une question théologique. Elle a été déjà posée dès les guerres de religion, à partir donc de 1562. Partant, elle soulève le problème de la justification de la violence, et pour rester dans le cadre géographique de l'action des prédicants, cette question de la violence et de l'utilisation de la violence a opposé de façon très schématique, là je suis très schématique, François Vivin, donc qui était un partisan de la violence, à Claude Brousson, qui était, dit-on, partisan de la non-violence et qui est mort pourtant exécuté en 1698. Alors le terme non-violence, c'est un terme anachronique, je mets des guillemets à ce mot. En réalité, Brousson s'est converti à la non-violence après 1692, c'est-à-dire après la mort de François Vivant, qui était donc son ami, même s'il pouvait s'opposer sur l'utilisation de la violence. Et jusque-là, sans totalement approuver l'utilisation des armes ou les assassinats ciblés, parce que François Vivin, lui et ses hommes, ont exécuté, souvent de sang-froid, soit des curés, soit des délateurs, soit même des apostats. Et Claude Brousson, même s'il s'est opposé à Vivin, a fermé les yeux sur les comportements violents donc, de ses amis. C'est surtout au refuge que la question fera débat, et elle amènera de nouveau Jurieu, vous comprenez l'importance de Jurieu, à défendre l'idée suivante, je cite Jurieu, « Toute nation qui se fait un roi se conserve le droit de le défaire quand il va au-delà des bornes de son devoir. » Et Jurieu de conclure, « Nous sommes Français de naissance, mais notre patrie nous ayant déclaré la guerre, nous ne pouvons plus la regarder que comme notre ennemi. » Cette redoutable affirmation pose des problèmes de conscience à tous les protestants qui étaient jusque-là extrêmement attachés à la conception calviniste de la soumission au prince. Cette idée de Jurieu semble avoir été partagée par plusieurs prédicants, dont François Vivin, qui a rencontré d'ailleurs souvent Jurieu lorsqu'il a été en exil en Hollande, et sans doute Claude Brousson. Et Claude Brousson s'est rallié d'ailleurs implicitement à cette théorie de Jurieu, qui a ouvert plus tard la voie, en 1789, à la souveraineté nationale. Cette question, la question de la violence pour défendre sa foi, en amène une autre. c'est la question du loyalisme politique et la question de la solidarité confessionnelle avec les protestants, les pays protestants ou les États protestants de l'Europe. C'est pour ça que j'ai insisté sur le contexte européen international dans lequel donc s'est déployée l'action des prédicants. Pour comprendre cette question qui touche incidemment à ce que nous appellerions aujourd'hui l'identité nationale, sommes-nous huguenots avant d'être français ? Sommes-nous français avant d'être huguenots ? Pour comprendre cette question, il faut revenir sur deux faits qui sont en apparence anecdotiques, mais rien n'est anecdotique en histoire. Premier fait, quand le corps de Vivien a été outragé à travers la ville d'Alès, vous imaginez, en février 1692, on tue Vivien près de la vigne, près de Carnoulès, c'est comme ça qu'on prononce, je pense. Donc son corps est transporté ici à Alès, donc on juge post-mortem Vivien, et le bourreau décide, avant de jeter son corps dans le bûcher, le bourreau donc attache le corps de Vivien à une charrette, et sur le corps de Vivien, on épingle un écriteau sur lequel on pouvait lire « traître et assassin », et la charrette a fait plusieurs fois le tour des boulevards et des ruelles d'Alès. Traître et assassin. Quand Claude Brousson a été interrogé en 1698 par Baville, l'intendant lui a mis entre les mains la lettre que le prédicant, que Brousson avait écrit au maréchal Schomberg ou de Schomberg, qui était au service de Guillaume III. Et en effet, dans cette lettre compromettante, Brousson plaidait en faveur de l'envoi d'un corps expéditionnaire étranger, notamment vaudois et ou anglais, au cœur même des Cévennes, dans la région de Somain. Et pour Baville et pour Versailles, donc pour le gouvernement royal, Brousson, comme Vivien, était un traître. Il était un traître et à sa patrie et à son roi. Par leur choix stratégique, Vivien et Brousson donc soulèvent la question suivante. Vous voyez que c'est une question contemporaine. Peut-on accepter, pour défendre la cause protestante, être les mercenaires d'une puissance étrangère ? Alors le problème n'est pas seulement religieux, vous l'avez compris, il est très largement politique, et il renvoie à un vieux débat qui est né pendant les guerres de religion. Comment être fidèle au roi tout en étant fidèle à sa foi, surtout lorsque le roi est catholique ? Mais sous un roi qui désormais ne garantit plus la liberté de conscience, les protestants sont placés devant un choix particulièrement dramatique, résister par les armes, s'exiler ou alors se compromettre avec Babylone. Et en 1689, je vous ai dit de retenir cette date, l'année de la délivrance selon Pierre Jurieux, eh bien François Vivien, Claude Brousson et d'autres prédicants, ainsi que tous les élateurs du refuge, eh bien, sont sur le point de provoquer un soulèvement armé en septembre 1689 sur la Camp d'Hospitalet, et la guerre des Camisards aurait pu éclater, elle aurait pu naître le 24 septembre 1689. Elle est née le 24 juillet 1702 au pont de Montvert. Une fois encore, les protestants, surtout au refuge, se sont divisés sur cette question de la fidélité au prince. Ça rejoignait de nouveau la problématique posée par Jurieux. Et ça nourrissait, y compris en France, hein, y compris dans les Cévennes, ça nourrissait des disputes, des polémiques entre les modérés et les élateurs, entre ce que l'on appelait les audacieux et les prudents. Passé 1692, c'est-à-dire l'année de la mort violente de Vivien, eh bien, Brousson croit qu'il est possible de maintenir la foi réformée par un anachronisme, hein, j'appelle la non-violence, pour faire comprendre l'option de Brousson, mais sa mort en 1698 signe l'échec de ce rêve, bien qu'il ne soit pas certain, hein, que la non-violence, entre guillemets, ait été partagée par l'ensemble des prédicants qui sillonnaient armés les Cévennes. Que conclure ? Arrivé à ce stade de mon exposé, il faudrait donc conclure. En fait, traiter des prédicants, comme je l'ai brièvement exposé ce soir, sans embrasser la totalité de la résistance protestante sur la longue durée, je dis bien sur la longue durée, ne permet pas de conclure. Alors je m'en excuse hein, auprès de vous, mais je ne suis pas ce qu'on appelle un historien positiviste, et surtout je ne crois pas aux conclusions définitives et abruptes que trop d'historiens ont tendance à nous asséner. Alors plutôt que de clore définitivement mon exposé, et de clore la période des prédicants, je veux juste, avant que vous partiez, vous inviter à réfléchir aux questions suivantes. Entre donc continuité et rupture, les prédicants ont-ils sauvé le protestantisme de l'abîme, celui de 1685 ? Est-ce que la mort de Brousson a rouvert la voie à l'option de la violence ? Les prédicants ont-ils ouvert la voie au prophétisme ? J'ai déjà posé cette question dans l'introduction. Les prédicants ont-ils été les précurseurs des camisards ? Je vous remercie.
Merci, Monsieur Chabrol, pour ce bel exposé, pour ce tour d'horizon général sur les prédicants. Et j'ai bien aimé cette mise en relation avec le contexte, évidemment national, mais le contexte européen, qui est fondamental pour comprendre aussi ce qui se passait, au fond, en Cévennes. On a souvent le sentiment, hein, bon, même si ça a été démontré, je pense, depuis longtemps déjà, que les Cévennes sont des hommes isolés et que les Cévennes seraient une terre un isolat, hein, comme M. Chabrol l'a dit. Or, il n'en est rien. Et on sait bien le retentissement qu'a eu ici la guerre des Cévennes dans l'ensemble de l'Europe et ses répercussions, même encore des siècles après, hein, puisqu'on parlait de la guerre des Cévennes dans l'ensemble de l'Europe. Voilà, donc je vous propose maintenant, pour ceux qui le souhaitent, de faire des remarques, de poser des questions, pour que nous puissions aller peut-être encore plus avant dans cette exploration de cette période méconnue, celle des prédicants. Voilà, c'est à vous la parole. Alors moi, je rebondis, peut-être pour laisser le temps à ceux qui sont présents de formuler leurs questions. Je rebondis sur votre conclusion. Vous dites, est-ce que les prédicants n'ont pas sauvé le protestantisme ? Moi, ce que j'ai retenu de la reconstruction ou de la refondation de l'Église protestante, c'est le travail d'Antoine Court. Est-ce que Antoine Court connaît bien le travail de Brousson notamment, mais aussi de François Vivin? Est-ce que pour lui, ces hommes ont été une source d'inspiration, ou au contraire, est-ce qu'il prend une distance avec Brousson, avec Vivin, comme il prendra une distance avec les prophètes?
Alors, je crois qu'en effet, implicitement, à bien lire son histoire des troubles des Cévennes, puis une partie de sa correspondance, d'ailleurs, qui n'a pas été entièrement éditée, il approuve, mais il est quand même réticent, ne serait-ce que parce que ces gens-là sont armés, utilisent la violence, il y a des assassinats ciblés, on tue des curés, etc. Or, on le sait, Antoine Court était véritablement l'ennemi de la violence. Hein. Et d'ailleurs, il a eu des mots extrêmement durs à l'égard des camisards. Il était fasciné par les camisards. Il a une réelle empathie pour les camisards, parce que ce sont des personnages extraordinaires, hein. Les prédicants également. Mais malgré tout, il y a la violence, et c'est vrai que cette violence, elle va à l'encontre, j'allais dire, de ce qu'il voulait faire comprendre aux protestants après 1715, que finalement, c'était une impasse, que ça permettait au pouvoir d'accentuer sa répression, alors que la voie, entre guillemets, j'allais dire, de la non-violence permettrait d'oublier, j'allais dire, les drames que les Cévennes ont contenus entre 1685 et 1710. Alors c'est vrai qu'il est quand même relativement réticent, mais il mentionne d'ailleurs Vivin, il mentionne Brousson. Il y a quand même une grande admiration pour Brousson, parce que Brousson, c'est un personnage véritablement fascinant. Hein, rendez-vous compte, c'est un bourgeois, hein, c'est le seul bourgeois de l'équipe. Si je peux me parler ainsi, c'est un avocat, et un avocat qui va côtoyer des gens du peuple, hein, des gens qui sont parfois proches de l'illettrisme, comme Antoine Rocher, etc. Donc il est dans la rupture sociale. C'est également un grand esprit, et c'est vrai que c'est vraiment le grand entre guillemets, l'intellectuel, j'allais dire, de ces prédicants, puisque c'est lui qui a pratiquement rédigé tous les sermons, les exhortations qu'ont utilisées les autres prédicants. Donc, malgré tout, malgré les réticences par rapport à l'utilisation de la violence que Brousson a couvert, parce que quand j'ai écrit ce livre avec finalement Yann, on était parti de l'inscription de Lacan de l'Hospitalet, où on nous dit que ce jour-là, le 24 septembre, Brousson est vivant. Le 24 septembre, donc, Claude Brousson et François Vivin exhortèrent leurs amis à se fortifier contre la violence et à résister pour défendre leur foi et leur culte. Alors certes, résister, mais se fortifier contre la violence, non. Là, c'est une contre-vérité. Même Brousson, lorsque les officiers sont arrivés pour disperser l'assemblée, Brousson a demandé d'armer les fusils. On a été sur deux doigts de l'affrontement militaire. Je ne sais pas ce qui se serait produit si l'affrontement s'était... si vraiment il s'était affronté militairement avec des armes à feu. Donc, pour Antoine Court, qui n'admet pas la violence... Et qui a critiqué fortement les Camisards pour cela et qui n'aime pas les prophètes, alors ça c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, il est partagé. Alors, pour Vivin, c'est clair, il ne devait guère l'aimer. Pour Brousson, bien évidemment, il a quand même un grand respect pour ce ministre. Parce que
surtout celui de la seconde période.
Et surtout sur la seconde période. Mais bon, je pense qu'il faut comprendre que ce que nous savons de Brousson, et de, entre guillemets, de son approche non violente de la résistance, il faut comprendre qu'elle dépend également de l'interprétation des sources. Donc, pour défendre sa peau, Brousson a été obligé de dire, et a dit, parce qu'il a été quand même questionné, peut-être même mis, torturé, on ne sait pas, mais en tout cas très fortement questionné, il fallait qu'il défende sa peau. C'est la raison pour laquelle il a accusé Vivin d'être, lui, le séditieux. Et au contraire, il voulait apparaître devant Baville, et donc devant le roi, comme étant l'homme qui prêchait l'obéissance au roi et qui voulait maintenir le protestantisme par une action non violente.
Oui. Dans cette prédication, est-ce qu'on peut distinguer une unité de prédication et puis tirer des lignes de force sur la prédication de ces prédicants ?
Alors, bon, je... Vous trouverez donc le détail là-dedans, et si vous voulez alors aller plus à fond dans, j'allais dire, l'analyse des prédications, enfin des sermons des prédicants du désert, il faut lire cette somme qui est pour l'instant indépassée. Hein. C'est un ouvrage écrit en 1912, mais qui n'a pas pris une ride. On peut le rectifier sur quelques détails, et donc là-dedans vous avez la reproduction de pratiquement tous les grands sermons, dont ceux de Brousson. Alors, il y a deux lignes directrices que j'ai indiquées tout à l'heure. D'abord, l'appel à la repentance, et surtout, sortir de Babylone. Alors ça, c'est réitéré de façon quasiment permanente. On brode toujours autour de ce thème-là, enfin, les prédicants brodent autour de ce thème-là. Et puis, il y a le thème de la délivrance, si vous m'avez compris, qui est accordé avec cette espérance millénariste dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, ce sont les deux axes principaux. La délivrance est proche, mais il ne faut pas se résigner. Donc ils auraient pu dire la délivrance est proche, résignons-nous, attendons que ça passe, et puis non, c'est pas ça. Donc la délivrance est proche, l'espérance est proche, mais là on est, j'allais dire, dans le droit fil de l'identification du peuple réformé sévenol à Israël, au peuple hébreu. Et puis donc il y a l'autre axe, donc repentez-vous, sortez de Babylone. Alors ça signifiait concrètement quoi ? Ça signifiait, lorsque les fidèles s'assemblaient, lorsqu'on organisait une assemblée clandestine, les prédicants mettaient en garde donc tous ceux qui étaient là, en leur disant, n'allez plus à l'église. Nous vous défendons d'aller à l'église. Et ceux qui y vont doivent se repentir devant nous. Et d'ailleurs, ils distribuaient la scène 4 fois par an. Là, on est dans la continuité, j'allais dire, d'une activité pastorale normale, classique d'avant 1685. Ceux qui s'approchaient donc de la table et qui étaient allés à l'église, ou qui avait abjuré, eh bien, on ne leur donnait pas la scène. Donc ils étaient mis à part. Il fallait bien qu'ils abjurent devant les prédicats. Hein.
Il avait refusé à une noble, je crois.
Oui, il avait refusé à une noble de Saint-Jean-du-Gard, je ne me rappelle plus quelle dame. Enfin, bon, on a d'autres exemples. Voilà. Donc, voilà, il y a... ça, c'est vraiment l'axe majeur des prédicants. Donc, n'envoyez pas vos enfants aux écoles catholiques, hein, etc. Antoine Rocher le dit et le répète, etc. Mais Brousson le disait, François Vivien, tous, voilà. Donc, leur message, il se développe, j'allais dire, sur ces deux axes, hein, et... en permanence. Alors, c'est là où on peut faire le lien avec le prophétisme, parce que je me suis posé la question, à force de culpabiliser véritablement ces fidèles qui viennent les écouter, je me demande si finalement, à leur corps défendant, ils n'ont pas ouvert la voie au prophétisme, en accentuant cette culpabilité, en disant « Oui, vous êtes des pécheurs, vous avez abjuré. » Antoine Rocher a un sermon magnifique en disant « Oui, voilà, je crois qu'il est cité dans mon bouquin, vous voyez apparaître un dragon, et hop, vous filez à l'église et vous abjurez, vous envoyez vos enfants aux petites écoles. » Alors, à force de remâcher, parce que c'est vraiment remâche, ce sentiment de culpabilité, je me demande finalement s'ils n'ont pas, entre guillemets, échoué, parce que finalement, ils ont ouvert la voie aux prophètes qui, eux, alors là, pas par dizaines, mais par centaines, voire par milliers, n'ont eu de cesse, j'allais dire, de développer ce message culpabilisant, repentez-vous, c'est ce qu'on voit à travers toute la guerre de Camisard, et notamment chez Abraham Mazel. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui, j'aurais aussi aimé le lien qu'il y a avec une prédication évangélique. Ça, c'est plus une prédication culturelle, c'est circonstance.
Évangélique, vous voulez dire quoi exactement?
Oui, comment il s'appuyait sur la Bible? Est-ce qu'il disait que l'Apocalypse ou l'Exode? Quelle était la place de l'Évangile dans cette prédication?
La place de l'Évangile, elle est faible. Quoique, je le dis dans ce bouquin, ils avaient tous lu « Qui prendra l'épée périra par l'épée ». Bon, ça, ils le savaient. Claude Brousson ne pouvait pas l'ignorer, ni François Vivien, etc. Mais ces gens-là, à cause de cette crise religieuse, culturelle dont j'ai parlé, à cause de la répression, parce que ça, il ne faut pas oublier ça, hein, sans cette violente répression, sans cette persécution, il n'y aurait jamais eu de prédicants, il n'y aurait jamais eu de guerre des Camisards ou de guerre des Cévennes. Donc, c'est pour ça, bon, j'ai fait bref, hein, parce que je pourrais écrire 1000 pages là-dessus, hein. J'ai essayé de vous faire comprendre le contexte mental dans lequel ces prédicants multipliaient leurs exhortations. Donc, ils s'appuient essentiellement sur l'Ancien Testament et sur cette conception, j'allais dire, apocalyptique de l'histoire qui vient, elle, j'allais dire, du choc provoqué par la révocation de l'édit de Nantes et de cette violence qui a été exercée à l'encontre des protestants. Je dis souvent, depuis 2 ou 3 ans, à force d'étudier ça dans les archives, qu'aujourd'hui, cette violence, hein, elle tomberait sous le coup de crimes contre l'humanité. Avec Pierre Rolland, on en discutait dernièrement, on pense, lui et moi, que la violence qui a été exercée entre 1686 et 1702, si on laisse de côté l'aspect guerrier de la guerre des Camisards, elle a été, mais j'allais dire, c'est une violence sans bornes, sans frein, etc. Malgré, j'allais dire, il y avait une justice, mais c'est absolument abominable ce qui s'est passé. Absolument abominable. Je crois que même pendant les Camisards, peut-être les soldats étaient peut-être un peu plus tenus que pendant la période prédicante. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de message évangélique au sens où vous l'entendez. Ces gens-là s'appuient essentiellement sur le Testament et cette identification très forte avec le peuple d'Israël, avec le peuple hébreu, avec donc les références, l'Exode, Babylone, l'Égypte, etc., font que, mais vraiment, là, il n'y a qu'à lire tous les serments. Ils sont en effet imprégnés de cette culture qu'on appelle vétérotestamentaire, c'est-à-dire pétrie par l'Ancien Testament. Et cette dimension apocalyptique, elle commence d'ailleurs à travers les sermons de Claude Brousson. On voit sans arrêt des références à l'Apocalypse. Alors, j'ai pas cité, il y a une lettre de François Vivien qui est très fortement marquée par cette apocalyptique. Et cette lettre montre que François Vivien, s'il avait survécu, il n'était pas loin de devenir un prophète. En effet, sa lettre montre très, très clairement cette pente hein, qui nous amène inexorablement vers, vers le prophétisme. Voilà.
Vous avez dit que les prédicants se sont évanouis en 1700, je
crois. Oui, ils se sont évanouis parce que, en me replongeant pour ce livre, puis en retournant vers Charles Bost, parce que mon livre n'aurait pas été écrit hein, sans l'œuvre de Charles Bost. Donc je me suis replongé dans les archives, et en effet, je m'aperçois que les prédicants, bon, ils sont persécutés, ils s'exilent, mais beaucoup sont rentrés dans ce que j'appellerais, c'est une fausse analogie, mais enfin la clandestinité. Et curieusement d'ailleurs, on retrouve un certain nombre de prédicants qui opèrent avant 1701, on les retrouve pendant la période des camisards. Et j'en ai retrouvé plusieurs. Et j'ai même retrouvé des prédicants. J'ai trouvé une affaire qu'à mon avis, il faudrait la réétudier. Je ne me rappelle plus, c'est un Couderc. C'est une famille d'opiniâtres. Et un des Couderc était prédicant. Et j'ai retrouvé donc un procès où les deux frères du Chéla, donc l'abbé et son frère qui était officier, les deux frères du Chéla donc investissent une maison dans laquelle il y a ce coup d'air, et ils sont presque, ils allaient s'entretuer. Hein. Et donc il y a beaucoup de prédicants qui n'hésitent pas cette fois-ci à faire le coup de feu. Et je pense, mais bon, il faudrait peut-être réécrire cette histoire-là, on opère à partir du livre de Charles Bost, on distingue deux périodes, les prédicants et puis les camisards. Mais en réalité, si je devais réécrire cette histoire, j'essaierais de montrer qu'il y a une très forte continuité entre les prédicants et les camisards. Les chefs camisards étaient en quelque sorte des prédicants, sauf que plusieurs chefs camisards étaient non seulement des prédicants, mais ils étaient également prophètes. Voilà, ça c'est la différence essentielle. Mais, si vous voulez, bon, j'ai arrêté ma date en 1701, mais il faudrait rentrer dans des détails. Il n'y a pas de rupture. Il y a une continuité, donc il y a des prédicants qui disparaissent, il y a des prédicants qui sont exécutés, il y a des prédicants qui sont envoyés aux galères, mais il n'y a pas, si vous voulez, de fossé. Non, l'histoire continue, la répression s'amplifie, elle change parfois de nature, le prophétisme touche les Hautes-Cévennes, mais les prédicants sont toujours là. Donc j'ai dit qu'ils disparaissent, mais je pense que s'évanouir, c'est mieux, vous voyez. Voilà. Votre public est très sage. Il m'impressionne.
Tout à l'heure, vous avez évoqué le val de Salendrenque.
Oui.
Où effectivement, on vivait avec beaucoup d'efforts, oui, de prophétisation de ce secteur-là, en partant de Cornélie, oui, et de Deauville. Mais il ne faut pas partir d'une idée monolithique des Cévennes. Il y a des régions, quelques secteurs locaux, comme Fessine de Fourque, à des points très locaux, qui étaient restés catholiques.
Oui.
Les familles des Campagnols, oui, de Prades, oui, les Galas de Toros, étaient restés catholiques. Ils étaient rattachés dès le. C'est rattaché au parti catholique. Donc l'effort de divers secteurs-là sera surtout un effort d'évangélisation pour essayer de reconnaître ces populations. Oui.
Mais quand même, ça me titille, donc je suis allé au Vigan, je vais à la salle, je vais retourner à la salle au printemps, donc je cherche à rentrer en contact avec des familles qui conserveraient des archives ou des chercheurs. Mais plus j'ai étudié le bouquin de Bost, quand je me suis replongé dans les archives de l'intendance à Montpellier, véritablement le premier épicentre, c'est la région de La Salle. Hein. Là, il y a un fort noyau de. D'ailleurs, les trois premiers compagnons de François Vivien sortent de cette région, hein, Soudor, je ne me rappelle plus. Et donc, là, manifestement, plus qu'ailleurs, hein, plus qu'en Haute-Cévenne, voilà, il y a donc un noyau de protestants, donc il y a des solidarités familiales, sociales, manifestement, puisqu'on voit cette petite noblesse y participer, au moins par l'intermédiaire des femmes. Donc, à mon avis, là, il y a l'épicentre est là. Hein. Et c'est pas pour rien, Vivien et Brousson, pour prendre que ces deux exemples, les frères Plan, etc., ils rayonnent tous autour de La Salle, et même parfois, ils arrivent à pénétrer dans La Salle, à y rester deux ou trois jours, voire même une semaine, abrités par la population, sans que le pouvoir puisse finalement les déloger. C'est dire l'ampleur des complicités.
Cornélie géographiquement n'est pas si éloignée que ça, mais ça
La Salle. Oui, voilà.
et en particulier aussi dans Colonia.
Et dans, oui, alors Colonia, Xudorgue, etc. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de chercheur qui ait creusé, mais je pense qu'il y a une étude sociologique à faire sur la région de la Salle, enfin, au sens, la Salle Indrinque, hein, pour montrer. Alors curieusement, c'est une région qui a moins donné de prophètes, mais par contre, c'est une région qui, à mon avis, la première à développer cette résistance.
Voilà. Il faut aussi penser qu'une partie des seigneurs, entre guillemets, des hauts locaux à la Salle, avaient souvent leur résidence à un hôtel particulier à Saint-Jean-du-Gard.
Oui, ah oui, là, là, les liens sont extrêmement forts. Hein.
Oui.
Excusez-moi, vous me reprendrez si je n'ai pas compris. Il y a quelque chose qui me surprend, c'est quand vous dites que la culpabilité a pu les amener à un prophétisme qui s'appuyait sur des paroles que Dieu avait données à Israël pour des temps donnés. Et donc, ce n'est pas du tout du prophétisme. Ce ne sont pas les directions que Dieu a données pour l'époque. De prophètes, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est ça qui me... Parce qu'en fin de compte, ils s'appuyaient sur des paroles qui avaient été données à Israël pour des temps donnés.
Mmh. Oui,
mais
non.
Ils n'avaient pas de direction divine.
Non,
à l'époque où ils vivaient cette persécution.
Je vais faire comprendre. Donc, en 1685, vous le savez, donc il y a, à partir de 1683, donc en Cévennes, il y a ce qu'on appelle donc une dragonnade, donc les gens. La population réformée, donc les protestants, abjurent en masse et parfois avant même l'arrivée des dragons. Alors, je peux prendre des exemples que je connais très bien, la région de Bar des Cévennes. On annonce les dragons à Saint-Jean-du-Gard, hein, donc c'est pas comme aujourd'hui, il fallait une bonne journée pour monter là-haut. La population abjure, soit publiquement, et alors j'ai trouvé des documents particulièrement intéressants, soit, j'allais dire, de façon privée. J'ai trouvé un notaire qui était un ancien, le notaire Chambonnet, et qui, avant même que les dragons arrivent à Bar-des-Cévennes, dans un registre notarié, écrit hein, qu'il abjure. C'est extraordinaire, il n'est même pas devant le curé. Il abjure. Voilà. Alors, à mon avis, comme il est notaire, ça devait servir plus tard pour preuve. Voilà. Donc, ces gens abjurent en masse. Bon, ils abjurent en masse, et c'est vrai que, alors là on le voit, les prédicants déjà développent la repentance, c'est repentez-vous d'avoir abjuré. C'est le plus grave, le plus terrible des péchés. Bien, alors ce message, eux, ils le martèlent, hein, vous prenez Brousson, enfin tous les prédicants, le martèlent auprès de cette population. Donc, en effet, je le dis, ils accentuent, j'allais dire, ce sentiment de culpabilité, c'est-à-dire nous sommes coupables, nous avons fauté, nous avons péché. Il faut comprendre que dans une conception providentialiste et millénariste de l'histoire, telle qu'elle se développe en Cévennes à partir de 1685, mais peut-être avant, ça renvoie à l'Apocalypse, seuls seront sauvés les justes, dans un premier temps, et les autres seront jugés, hein. Et ceux qui seront damnés n'auront pas droit à la vie éternelle. Hein. Alors, bon, je ne vais pas en train de donner considération théologique parce que ça renvoie également à la prédestination. Bon, peu importe. Donc, ce sentiment de culpabilité se développe à travers toutes les Cévennes. Ça, toutes les sources le montrent, etc. Mais ça devient même, j'allais dire, un sentiment, j'allais dire, quasiment pathologique. Je veux dire pathologique, ça touche, bon je ne vais pas employer les termes qu'employaient même des gens comme Charles Boss, les hallucinations, ce sont des malades, etc. Mais c'est quasiment pathologique, c'est à la fois religieux, ce sentiment de faute, c'est la faute, hein, c'est le péché, etc. Au sens le plus fort, j'allais dire, du péché chez les chrétiens, et ça se développe de façon quasiment pathologique à travers toute la population. Bon, les prédicants s'évanouissent, les prophètes, les petits prophètes reprennent à leur compte ce message de la repentance et de la culpabilité, mais eux vont le multiplier, j'allais dire, à la puissance 1000 parce que ça va toucher, j'allais dire, toutes les catégories de la population, et c'est j'allais dire, l'ensemble du peuple cévenol qui est touché, c'est-à-dire que vous avez fauté, vous, les parents, les grands-parents, etc., vous nous avez envoyés à l'église, vous nous avez envoyés aux petites écoles, etc., vous êtes coupables, vous serez damnés, etc., et eux, ils multiplient, j'allais dire, ce sentiment de culpabilité. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non.
Oui, mais j'ai dit non. C'est-à-dire que le prophétisme, là, c'était pour la survie de leur foi.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Et ce n'était pas des directions divines.
Non.
De faire comme ci, comme ça.
Ah non, 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 mais... Enfin, ce n'est pas des directions divines. Les prophètes prétendent parler au nom de l'Esprit, hein. Entendez-moi bien, hein.
Ils dirigent leurs troupes aussi.
Oui. Ouais. C'est développé en Inde avec Gandhi, hein. Donc c'est un mot qu'on ne trouve pas, j'allais dire, Brousson ne dit pas « nous allons pratiquer la non-violence ». Donc lui, il oppose, comment il dit, il faut utiliser le glaive de l'esprit. Hein. Donc lui, il est quand même dans un message, ce monsieur l'a posé la question, il est vraiment dans, j'allais dire, dans une conception évangélique de la résistance, c'est-à-dire on va résister pacifiquement. D'ailleurs, en 1683, lui et d'autres pasteurs, bon, il y avait des dissensions très fortes, ont lancé l'idée de résister, enfin, ils n'utilisaient pas le mot, enfin, nous, résister pacifiquement, en se rendant, donc ils avaient prévu de se rendre tous un certain jour sur les ruines des temples qui avaient été rasés, notamment, alors, il y a une très belle histoire à Saint-Hippolyte-du-Fort, hein, où ce jour-là, on s'assemble pour prier, mais sans armes, hein. Claude Brousson et d'autres pasteurs avaient dit... Il faut y aller sans armes. Et malheureusement, les dragons sont là, on leur tire dessus, etc. Donc, si vous voulez, le mot non, là, j'ai utilisé le terme non-violence par souci pédagogique, hein, mais c'est pas un mot que l'on rencontre sous la plume de Claude Brousson. Voilà. Mais ça renvoie quand même à la même idée, même si la non-violence de Gandhi, vous le savez, elle est quand même relative. Il faut voir les violences qui se sont produites en Inde, même du temps de Gandhi. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire qui nous amène beaucoup plus loin que mes prédicants.
Sait-on quel type d'ouvrage, si Brousson déjà utilisait certains types d'ouvrages pour écrire ses sermons ? Des commentaires, des ouvrages de théologie ou faisait-il
Non,
comme
non,
ça,
non, il puisait abondamment dans la Bible, donc il y a énormément de références bibliques, hein, mais c'est dans le style de l'époque. Hein. Alors, ça, c'est peut-être le seul point faible de Charles Bost, si vous lisez le deuxième tome, donc, où il analyse, il y a de très très belles analyses des sermons de Claude Brousson, la main mystique, c'est des textes magnifiques. Alors lui, il est quand même, je trouve, un peu sévère en disant « Oh, c'est des sermons aujourd'hui, en 1912, absolument illisibles, etc. » Alors c'est vrai que si on devait filmer ça, vous imaginez la plupart de ces paysans cévenols, il y avait à peu près 60% d'illettrés. Hein. Si on prend les femmes, il y avait à peu près 75 à 80% d'illettrés. Des gens qui parlaient qui parlait quotidiennement l'occitan, qui pouvait comprendre le français de la Bible, etc. Moi, je me mets à la place de ces gens. Quand vous lisez la manne mystique, quand vous lisez tous les grands sermons de Brousson, ça durait 2 à 3 heures. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, hein, si je lisais pendant 2-3 heures un sermon de Brousson dans un temple, hein, je ne le vide pas au bout d'une demi-heure. Alors, je me demande ce que pouvaient comprendre les gens. Mais ces gens comprenaient, ils retenaient, on est dans une culture orale, ils retenaient des phrases, des formules, etc. Et d'ailleurs, les prophètes ne se feront pas faute de débiter comme ça des phrases issues des sermons qu'ils avaient entendus de la part des prédicants.
Au regard de l'objectif qui s'était fixé, ces gens-là, c'est-à-dire maintenir la foi protestante, qu'est-ce que l'on peut en conclure à...
Redoutable question. Tout d'abord, et on va terminer là-dessus, hein, monsieur Belloir. Voilà l'interprétation que je fais. Bon, j'en ai parlé avec Patrick Cabanel, qui est quand même plus ou moins d'accord avec moi. Tout d'abord, il faut comprendre que la révocation de l'édit de Nantes et la disparition des consistoires ont véritablement divisé, clivé la société cévenole. Beaucoup ont abjuré, massivement. La majorité a abjuré. Une minorité est restée opiniâtre, mais c'est une minorité. La majorité a abjuré, et parmi ceux qui ont abjuré, certains sont redevenus d'authentiques catholiques. Ils sont alors pas des nouveaux convertis, mais ils sont devenus des nouveaux catholiques. Bon. Donc ça a divisé la société Cévenole. J'en veux pour preuve, après m'être replongé dans les archives, j'ai regardé quelle était l'origine confessionnelle des délateurs, ou des gens qui informaient les milices ou l'armée de la présence des prédicants ou de la présence de l'existence des assemblées. On pourrait croire que ce sont des catholiques qui sont les principaux dénonciateurs. On risque de vous décevoir, il y a une très forte proportion de nouveaux convertis qui dénoncent leurs anciens coreligionnaires. Deuxièmement, c'est d'ailleurs curieux que personne ne pose de questions sur la fameuse attitude des pasteurs. Bon, on peut comprendre pourquoi ils sont partis. Mais ces gens-là ne cessaient d'enseigner une certaine vertu, une certaine morale, etc. Rappeler quels avaient été le comportement des premiers chrétiens lorsqu'ils étaient persécutés par les païens. Ces gens-là fuient en masse, résistent entre guillemets dans le confort du refuge, ça rappelle certaines périodes en France, beaucoup plus tardives. Hein. Mais à mon avis, il faudra écrire un jour cette histoire, l'histoire de l'exil massif des pasteurs a de nouveau déstabilisé la population. Comment se fait-il que ces gens pour qui on avait le plus grand des respects aient fui en masse et que très peu soient revenus ? Là-dessus, vous avez le prophétisme, puis la guerre des Camisards, c'est véritablement un traumatisme, et puis vous avez la reconstruction de l'Église protestante par Antoine Pau. Moi, j'avance l'idée que le calvinisme ne s'est jamais remis de cette période dramatique. Certes, on en discutait avec Yann, mon éditeur. Les protestants sont revenus dans les temples. Hein, dans les temples. Ils ont été reconstruits au XIXe siècle. Mais enfin, à partir de 1715, on voit se reconstituer l'appareil calviniste, les anciens, les consistoires, etc. Les cultes sont toujours clandestins, bon, puis le pouvoir les tolère de plus en plus. Il y a donc, en apparence, une pratique religieuse qui apparaît forte. Mais, quand on songe à toutes les divisions que le protestantisme a connues en Cévennes à partir du réveil, moi je pense que ces divisions qui sont intervenues sont le résultat, j'allais dire, de l'ébranlement provoqué par cette période 1685-1715. Et vous savez que les protestants, alors là je vais parler en tant que croyant, calviniste, etc., on est quand même des croyants un peu particuliers, on est très attaché à notre protestantisme, etc., tout en étant très indépendants, et parfois nous sommes plus des protestants sociologiques que véritablement religieux. Je parle pour moi, hein. Bon, de temps en temps le culte, etc. Et donc je pense que cet esprit d'indépendance et critique qui fait que d'un côté nous sommes attachés à notre foi, mais que de l'autre côté, j'allais dire, nous la pratiquons peu extérieurement, tout en étant fidèle à ses principes, je crois que cette attitude-là, elle s'est surtout développée à l'issue de cette période dramatique, qui fait qu'un certain nombre de protestants, et je pourrais citer des exemples très récents, tout en étant attachés aux principes religieux et anthropologiques du protestantisme, se sont détachés, j'allais dire, de son appareil ecclésiastique. Parce que la fuite en masse quand même des pasteurs, moi, elle m'a toujours interrogé, et le silence détonnant et assourdissant de l'historiographie protestante sur ce problème précis, et malgré toutes les justifications qu'on a pu en donner, eh bien, me laisse à penser que c'est une blessure et une écharde qui a perduré peut-être jusqu'à aujourd'hui.